RCF. Coup d'avance, le magazine d'un territoire innovant proposé par RCF en partenariat avec la ville de Saint-Étienne. Saint-Étienne change le monde avec design, avec créativité, avec innovation, avec passion. Chaque semaine, découvrez les entreprises qui font la richesse de notre territoire.
Madame la Présidente, bonjour. Cette signature avec le département et puis la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, à propos de ce que vous appelez la résilience des réseaux du très haut débit, qu'est-ce que cela signifie exactement ?
Bien déjà, ça signifie qu'après avoir réussi le déploiement très rapidement sur 5 ans de 17 000 km de fibres sur le département de la Loire, il nous faut maintenant penser à l'avenir, penser à la résilience, c'est-à-dire à l'entretien, à la sécurisation de ce réseau, tant sur les sujets des aléas climatiques, des malveillances possibles, mais aussi de la sécurité publique. Et s'assurer que ces réseaux vont bien toujours fonctionner, et c'est l'objet de l'étude. L'étude va nous donner un peu peut-être les points sensibles, les points où il faut renforcer ce réseau, et va nous permettre ensuite des investissements pluriannuels. C'est pourquoi nous avons ce partenariat avec la Banque des Territoires et la Caisse des dépôts, et avec le département, parce que notre réseau s'appuie sur le réseau RIP 1, l'OTIM, et donc nos deux réseaux sont imbriqués, et nous devons partager ensemble cette analyse du risque.
Ces deux réseaux, pour les auditeurs, il y en a un qui est plus spécialisé, plus destiné aux professionnels, on va dire, et l'autre plus aux particuliers. Est-ce que je ne résume pas trop ?
Je pense que le premier réseau, en effet, est démarré en 2005. L'OTIM a bien été construit pour les zones d'activité, donc pour les entreprises. Et le réseau THD 42 est bien pour les particuliers, mais aussi ça peut être le petit artisan, ça peut être la personne en télétravail, ça peut être des liaisons pour la santé, pour les collectivités. Donc c'est plus large, on va dire, que juste le particulier, mais en effet, c'est l'idée du réseau grand public.
Est-ce que ça veut dire aussi qu'au-delà de, je vais faire court là encore, réparation, entretien, il y aura peut-être de nouvelles initiatives technologiques dont va pouvoir bénéficier le réseau au fur et à mesure de sa vie?
Oui, au-delà de cette surveillance et de ce renforcement du réseau fibre, on développe aussi le réseau très bas débit réseau ROC 42, très bas débit, qui va permettre le déploiement de capteurs et d'objets connectés qui vont peut-être permettre la surveillance du réseau fibre optique. Donc on aura bien une relation entre les deux.
Coup d'avance, RCF Saint-Étienne.
Séverine Reynaud, pardon, vous êtes vice-présidente du département de la Loire en charge du numérique. Qu'est-ce qu'apportent ces contrats, ces deux contrats, encore ces deux accords signés aujourd'hui autour de ce terme très moderne de résilience du réseau très haut débit dans la Loire?
Alors, c'est une bonne question. Le réseau, donc, il a été déployé de façon rapide sur la zone THD 42, c'est-à-dire pour les particuliers, et il s'est appuyé sur le réseau fibre LOTIM, qui est le réseau professionnel, qui est un peu, si vous voulez, l'autoroute, et après on a construit les départementales et les communales, on va dire, si je veux imager pour nos concitoyens. Une fois ce réseau construit, qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'il y a de plus en plus d'aléas climatiques. On a encore de la fibre en aérien. Donc, un orage, un arbre qui tombe sur la fibre, c'est une coupure. Donc, cette résilience, il faut vraiment qu'on la travaille, parce qu'en 2030, c'est la fin du cuivre, c'est-à-dire ce qu'on connaît aujourd'hui, notre ADSL. Donc, il ne faut pas qu'on arrive dans une situation où on a une coupure du réseau qui nous bloque, par exemple, un hôpital, une entreprise, ou même nos concitoyens qui peuvent être assistés à la maison médicalement, etc., ou télétravailler. Donc cette étude, en fait, qui est co-pilotée par le ciel et le département avec le soutien financier de la Banque des Territoires, elle est très importante pour faire en sorte que notre réseau il soit solide dans les années à venir et prioriser les investissements qu'il faudra y faire pour justement le rendre sécurisé.
Parce qu'un certain nombre de nos concitoyens, justement, ont parfois du mal à comprendre, c'est que certaines zones très urbanisées sont moins bien loties, c'est le cas de le dire, que des zones plus rurales. C'est ce que vous appelez, je l'ai entendu pendant la conférence de presse, la zone AMI. De quoi s'agit-il et pourquoi on a affaire à cet état de fait ?
Dans la Loire, en 2005, comme le rappelait le président Ziegler, on a décidé de fibrer les zones d'activité, les entreprises. Donc on a construit le squelette de la Loire qui va sur la zone AMI aussi, c'est-à-dire sur Saint-Étienne Métropole jusqu'à Roanne, jusqu'au nord du département. En 2012, l'État dit qu'il faut fibrer. Et il demande aux opérateurs Orange et SFR, qui se positionnent sur ces zones AMI, d'investir pour fibrer les particuliers et les entreprises. À ce moment-là, les zones rurales, elles sont un petit peu délaissées. Les actions vont se mener sur des zones très denses, c'est-à-dire Saint-Étienne Métropole, Roanne avec les 6 communes qui sont autour, donc des zones qui sont très peuplées et relativement rentables, on va dire. Donc il y a un deuxième choix qui est fait par les collectivités ligériennes à travers le ciel, qui est de dire, nous on va fibrer les zones rurales qui ne sont pas prévues dans le schéma de déploiement aujourd'hui. Et c'est en ça que naît TAG42, donc qui va partir du réseau LOTIM existant et qui va aller chercher les zones rurales. Sur la métropole, quand ils ont déployé en zone AMI, ils ont bien sûr déployé tout ce qui était facile à tirer, c'est-à-dire le souterrain, ce qui est normal, hein, c'est un déploiement traditionnel et ça se fait toujours comme ça, même en zone RIP. Aujourd'hui, on arrive sur ce qu'on appelle les raccordements plus complexes en zone AMI, où on a des zones encore urbanisées, des zones résidentielles qui ne sont toujours pas fibrées parce qu'il y a un point de blocage qu'il faut débloquer. Et c'est ce qui fait que des fois, nos concitoyens sur la zone AMI dont je fais partie, puisque j'habite sur Rive-de-Gier, ne comprennent pas pourquoi la Loire elle est championne de France, mais eux, ils n'ont toujours pas la fibre. Voilà. Il faut un petit peu de patience, en tout cas on y travaille, mais c'est ce qui fait qu'on a un déploiement à deux vitesses.
Et justement là-dessus, quelles possibilités d'action vous avez ? Parce que si je comprends bien, il y a une espèce de chasse gardée des deux opérateurs que vous avez cités sur ces zones plus urbaines.
Alors c'est une des raisons pour lesquelles je me suis présentée à l'AVICA, qui est l'association des collectivités, des syndicats dans le milieu des télécoms, au niveau national. C'est pour porter ces sujets un peu plus haut et remonter les dysfonctionnements que l'on a. Alors sur la métropole, on fait des comités de suivi tous les 5-6 mois avec la métropole et le département y est convié à chaque fois. Donc on fait le point à chaque fois avec Orange pour voir comment on peut. On priorise les endroits, on essaye d'avancer comme on peut, mais c'est Cette représentation du département par ma mission à l'AVICA, elle permet ça.
Coup d'avance, RCF Saint-Étienne.
Jean Ziegler, une signature qui engage le département, à quoi faire finalement par rapport à ce très haut débit ?
Alors qui engage le département d'abord d'être avec ses partenaires, hein, qui sont le ciel, hein, et la Caisse des dépôts et consignations, la Banque des territoires, pour réaliser en premier lieu une étude, hein, qui va permettre de voir tous les points faibles qu'on pourrait avoir sur notre réseau du THD, notre réseau de la liaison Internet, qui permet effectivement à beaucoup d'entreprises de travailler et d'être efficaces. Aujourd'hui, sans ce réseau, eh bien, il y a des entreprises qui sont dans l'impossibilité d'accomplir les tâches qui sont les leurs. Alors je crois que c'est très important et il faut qu'on soit sûr d'avoir partout la sécurité. Parce que l'important, c'est de voir les points de fragilité qu'on pourrait avoir sur le réseau et de les réduire.
Alors, vous avez donné deux exemples pendant cette conférence de presse que j'ai trouvé très parlantes. L'une qui se passait du côté de Pélussin, l'autre du côté de Misérieux. Je peux vous demander de nous les raconter de nouveau parce qu'elles sont très significatives.
Je peux même vous en raconter trois. Premièrement, vous dire que la Sicarève à Roanne, ben c'est déjà assez ancien. Il y avait une panne. Il y avait sur le réseau, il y avait eu un dysfonctionnement. Eh bien, ils étaient réduits à l'inactivité parce qu'ils ne pouvaient plus abattre les animaux. Ça, c'était la première des choses. Alors, l'affaire du côté de Feur, c'était simplement qu'il y avait eu le vol par des gens mal intentionnés du réseau cuivre. Ils avaient tiré les câbles de cuivre et ils les avaient emportés. Et alors, l'avantage de la fibre, c'est que ça vaut rien. Donc la volée, ça ne sert à rien. Par contre, ben, effectivement, il faut qu'on soit prêt. Et puis enfin, c'était donc à Pélussin. À Pélussin, il y avait une entreprise qui s'était installée. Ils n'étaient pas nombreux, ils étaient quatre. et ils travaillaient avec des gens de Paris. Et puis un jour, les gens de Paris, ils ont dit, bah, tiens, on va venir vous voir quand même. Alors ils sont venus à Pélussin, et puis ils ont dit, mais vous travaillez comment ici? Vous avez la fibre? Et ils ont dit, bah oui, on a tout. Alors quand ils ont vu le débit qu'il y avait, quand ils ont vu, ils ont dit, mais attendez, c'est pas si désagréable que ça d'habiter à Pélussin. Hein, surtout qu'ils étaient venus un jour, au mois de juin, il faisait très beau, c'était magnifique. Hein. Et donc, ils se sont implantés à Pélussin. Ce qui fait qu'on a fait d'une pierre deux coups. On rend service à une entreprise qui existait déjà depuis quelque temps. Et on a fait venir des gens de Paris qui sont très heureux de vivre dans ce beau département de la Loire.
Georges Ziegler, merci beaucoup. Merci, monsieur.
Coup d'avance, RCF Saint-Étienne.
Jérémy Lambert, bonjour.
Bonjour, je suis le responsable du pôle numérique au Ciel et j'encadre avec plaisir 40 agents au service de l'aménagement numérique du territoire de la Loire.
Ces contrats signés autour de la résilience des réseaux numériques, évidemment, ça vous concerne directement, mais ça va très loin. Il y a la maintenance, il y a la mise en sécurité. Ça concerne aussi tout ce qui est de l'ordre des objets connectés. Et ça, on n'y pense peut-être pas trop encore, alors que ça va se développer de plus en plus. De quelle façon ?
Ça se développe énormément dans la Loire depuis quelques années. Aujourd'hui, il y a 300 sites qui sont en service pour couvrir quasiment intégralement le territoire ligérien, permettant aux collectivités, mais pas que, à tous les acteurs économiques, de mettre en place des objets connectés selon différentes verticales métiers, par exemple la télérelève de l'eau, la sécurisation des routes dans le cadre de la viabilité hivernale, des capteurs de qualité d'air dans des bâtiments recevant du public, et etc., etc. Donc la Loire est heureuse d'avoir une vitrine technologique que beaucoup de départements envient aujourd'hui, avec plusieurs années d'avance sur les ambitions d'autres départements de l'Hexagone. Ça va permettre ces objets, avant tout, d'améliorer le confort des usagers dans le cadre de la vie quotidienne, mais également de réduire les dépenses de fonctionnement de beaucoup de collectivités qui ont l'ambition de réduire drastiquement leur consommation en énergie ou en consommation de tout fluide comme le gaz et l'eau.
S'il faut agir sur des réseaux comme la fibre, tout le monde connaît à peu près comment est fait un fil électrique. Je ne suis pas sûre que tout le monde sache comment est fait une fibre optique. Est-ce que ça se répare facilement ?
La fibre se répare facilement. Souvent, c'est du silicium, donc en général, ça casse, comme du verre. Et donc, il suffit ensuite de procéder à des soudures avec des équipements spécifiques. Ça se répare très facilement.
Alors, vous avez parlé de 40 agents. Ce sont des métiers quand même très particuliers. Vous avez donc tout le personnel nécessaire pour, lorsque le diagnostic sera fait dans 3 mois, et que donc un déploiement pourra encore s'exercer de façon plus large, à des tas de niveaux, vous pourrez faire face à ces exigences techniques.
Oui, absolument. Le Ciel, donc, c'est une organisation au niveau du pôle numérique qui ne ressemble à aucune en France. Là où souvent des syndicats numériques ou syndicats d'électrification avec la compétence numérique ont quelques agents, le Ciel a donc plus de 40 personnes qui sont au quotidien affectées au déploiement d'extensions, des dévoiements des réseaux, des dissimulations. Donc effectivement, on a donc beaucoup d'agents qui sont dessinateurs sur des outils cartographiques, des techniciens coordinateurs de travaux qui suivent donc les entreprises titulaires de nos accords cadres travaux, mais pas que, on a du personnel administratif, juridique, qui permet justement de continuer là où il y a quelques années, les mêmes agents parfois ont contribué donc à l'établissement du réseau entre 2015 et 2020.
Alors, on parlait de cette étude qui est évoquée déjà par Madame Lethiévant et par Monsieur Ziegler, qui va démarrer dans quelques jours, qui sera finie dans 3 mois. Il ne s'agit pas d'aller interroger les usagers. Comment est-ce qu'elle va s'effectuer? Sur quelle base elle va s'effectuer cette étude, Jérémy Lambert?
Donc, cette étude sera essentiellement cartographique, avec pour l'alimenter donc des données émanant des services de sécurité civile, notamment les pompiers. Ça peut aussi être des données qui sont exploitées directement par l'exploitant du réseau qu'il commercialise, donc THD42 exploitation, filiale d'Axion, donc qui a aujourd'hui plusieurs années de retour d'expérience sur les différentes pannes qui peuvent intervenir sur certains secteurs du réseau. C'est des données également cartographiques prenant de Météo France pour connaître les différents aléas climatiques qui sont intervenus dans la Loire et notamment pour connaître leur occurrence, afin de prévoir des enfouissements ou des bouclages de réseaux de collecte. Et on continue à alimenter donc, nos bases de données auprès de différents partenaires, notamment la préfecture, afin d'avoir une liste de données exhaustive permettant de pouvoir rendre le plus résilient possible ces réseaux et d'anticiper donc, les investissements nécessaires à consentir dans le cadre de la future vie du réseau ces dernières années.
La préfecture, c'est pour les gestes malveillants.
Tout ce qui est, effectivement action de malveillance et intervention des services de l'État sur la voirie, notamment dans le cadre d'accidents de la route, des véhicules qui auraient percuté des poteaux soutenant la fibre ou des armoires de rue qui seraient en accotement de la chaussée et qui permet, cette étude pourrait nous indiquer éventuellement à déplacer donc ces armoires et ces équipements.
Et puis bien sûr, tout ce qui concerne la météo, parce que l'un des risques, ce sont les aléas climatiques de plus en plus.
Oui, absolument. Les risques liés à la neige collante, au grêle, le territoire ligérien étant très sujet donc, à des épisodes de grêle, les orages qui pourraient éventuellement, à l'instar des tempêtes, balayer des arbres qui pourraient tomber sur les ouvrages déployés. Donc les risques climatiques, effectivement, sont une problématique majeure pour cette étude.
Il y a beaucoup de choses qui sont enterrées, mais il y a aussi une partie du réseau qui n'est pas souterrain, qui est aérien. Il n'y a pas de risque supplémentaire par rapport à ce type d'équipement ?
L'idée, c'est pas d'enfouir totalement le réseau. Ce serait absolument improbable en termes financiers. Par contre, cette étude permettrait de poursuivre notre stratégie de sécurisation de la collecte, mais également de reboucler différents ouvrages qui seraient isolés en bout de réseau, afin que lorsqu'il y a une coupure sur une partie du réseau, le flux de données emprunte un autre chemin pour qu'il y ait toujours une continuité de service au niveau du client final. Le réseau LoRa du ciel déployé donc, afin de rendre durable et sobre le très bas débit sur le territoire, permettant de faire communiquer des dizaines, voire des dizaines de milliers de capteurs donc, à court terme, pourra être mobilisé pour rendre encore plus résilient ce réseau fibre optique. Le réseau très bas débit pouvant être mobilisé avec des capteurs installés sur des ouvrages de communication électronique, des armoires, des poteaux, différents types d'équipements visant à rendre encore plus sécurisé ce réseau fibre.
Dernière question, Jérémy Lambert. Est-ce que le ciel est aussi en capacité ou en volonté de faire de la recherche encore sur justement plus d'innovation, plus d'adaptation technologique ?
Donc l'ADN du ciel, c'est effectivement l'innovation et on est toujours à la recherche, dans le cadre d'une veille technologique, à utiliser la fibre autrement que comme vecteur de communication électronique auprès des particuliers ou des entreprises. Ça peut être un support de communication qui peut être utilisé pour différents types d'usages. Il y a encore beaucoup de choses qui sont à travailler donc, au ciel en termes d'innovation et de veille technologique.
C'était Coup d'avance, le magazine d'un territoire innovant proposé par RCF en partenariat avec la ville de Saint-Étienne. Saint-Étienne, ville UNESCO du design, labellisée French Tech, Design Tech, cultive ses talents.